Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
À quelques jours de l'élection des membres du Parlement européen, vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur les véritables pouvoirs de cette institution.
Absolument, il faut dire que depuis 1979, l'Assemblée européenne est élue au suffrage universel direct, mais que depuis lors, ses prérogatives ont largement évolué. Au fil des traités, Maastricht, Nice, Lisbonne, le Parlement a vu son rôle évoluer, passant de simple chambre d'enregistrement des décisions de la Commission à celui de législateur fantôme aux côtés du Conseil des ministres. On a ainsi accordé à la seule instance élue de l'Union la grâce inestimable de participer à l'élaboration du destin commun des quelque 512 millions de citoyens qu'elle est pourtant censée représenter. Et encore, ce pouvoir législatif est-il pour le moins atrophié puisque c'est la Commission européenne qui est seule à l'initiative des lois et le Conseil qui a le dernier mot en cas de désaccord.
En clair, Arjuna, la Commission propose et le Conseil dispose.
Exactement, et entre les deux, le Parlement tente tant bien que mal de se faire entendre par les représentants des États et par ceux de la technocratie bruxelloise. Et si le Parlement a depuis le traité de Lisbonne la possibilité de demander à la Commission de proposer une loi sur un sujet spécifique, celle-ci n'a aucune obligation de se soumettre et peut tout à fait refuser de porter le projet. Tout ce qui reste en réalité au Parlement européen est donc ce que l'on appelle la procédure législative ordinaire. L'Assemblée peut amender, modifier, proposer le renvoi d'un texte qu'elle juge insuffisant, mais jamais décider ni faire appliquer les décisions votées, apanage du Conseil et de la Commission.
Le Parlement européen a pourtant obtenu quelques avancées, notamment en matière d'écologie et d'environnement.
Oui, on pense notamment à la pêche électrique dont l'interdiction a été arrachée de haute lutte grâce au travail incessant de l'ONG Bloom qui a réussi à mener une offensive contre la Commission qui voulait étendre les possibilités de pêche électrique et a convaincu une coalition hétéroclite au Parlement de voter contre ce projet. Il a fallu ensuite convaincre les membres du Conseil plutôt favorables à l'électrocution des poissons de voter ce texte et pour une fois le miracle s'est produit. Fort d'un soutien populaire et d'une mobilisation de la société civile, le Parlement a réussi à l'emporter, ou plutôt le Conseil, dans sa grande mansuétude, a accepté d'offrir cette victoire aux membres de l'Assemblée.
Le problème, c'est que le Conseil et la Commission ne sont pas tenus de prendre en compte les amendements du Parlement.
Non, d'autant que le Conseil des ministres est bien souvent le lieu où s'exprime l'intérêt des États plutôt que ceux de l'Union, quand ce n'est pas celui des lobbies qui sont tout aussi nombreux qu'au Parlement européen, mais bien moins contrôlés. Dès lors, pour une avancée de l'Assemblée, combien de reculs, de projets enterrés? Comme le note un membre de l'ONG Bloom, les parlementaires font souvent des propositions intéressantes, mais elles sont presque toujours amoindries, vidées de leur substance par le Conseil. Difficile dans ces conditions de se passionner pour des élections qui promettent de surtout ne rien changer. Comme le notent sévèrement David Kayla et Coralie Delhomme dans leur ouvrage consacré à l'Union européenne, le Parlement est aujourd'hui une entité consultative plus qu'un organe décisionnel. Ce n'est donc pas lui qui modifiera la trajectoire de l'Europe actuelle. Celle-ci est d'ailleurs largement déterminée par des traités non modifiables, sauf à l'unanimité, autant dire jamais.